de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Votez pour moi, votez tout court. Dernier grand meeting de campagne hier soir, à deux jours du premier tour de la présidentielle. Nous sommes à Perpignan, où Marine Le Pen et ses partisans sont sûrs que cette fois c'est la bonne. À Nantes, avec Yannick Jadot qui s'est concentré sur le climat hier soir. Dans les banlieues absentes de la campagne cette année. Et avec vous Nicolas, avec la candidate LR de cette présidentielle.
Oui, pour le dernier épisode de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à la présidentielle. Aujourd'hui donc Valérie Pécresse, vous le savez, c'est le principe de ces grands entretiens. Vous avez, amis auditeurs, largement la parole. Donc le standard 01 45 24 7000 ou l'application France Inter.
Pire qu'à Boutcha, les crimes russes de Borodienka dénoncés par le président ukrainien, on va l'entendre. Réfugiés en Pologne, nous serons avec ceux qui font le voyage retour pour rentrer dans leur pays. Et avec les Pink Floyd qui reprennent les instruments pour leur première création depuis 28 ans. La voix que vous allez entendre est celle d'un Ukrainien sous les instruments.
France Inter.
Nous voici donc au terme d'une étrange campagne qui n'aura pas passionné les foules, excepté celle des meetings, déjà convaincus, des militants harangués hier soir et des candidats qui font passer leur dernier message avant la fin de la campagne ce soir à minuit. Marine Le Pen, donnée par tous les sondeurs en hausse et au deuxième tour, était donc à Perpignan, devant 3 à 4 000 personnes, galvanisées comme si la victoire était à portée d'urne, Élodie Forêt.
Avant l'entrée de la candidate en scène, la bande-son donne le ton. Ambiance festive et dans les gradins, des militants qui esquissent des pas de danse, confiants comme jamais.
Moi je sens qu'elle est prête pour nous amener ce qu'on attend d'elle et on compte sur elle.
Elle a changé, c'est plus pareil, elle est plus calme, elle est plus sereine, elle est plus sûre d'elle.
Les yeux rivés sur les derniers sondages et l'excellente dynamique, les cadres eux aussi ont du mal à modérer leur enthousiasme. Seul danger qui guette l'abstention, alors une nouvelle fois Marine Le Pen lance un appel aux urnes.
Jamais, mes amis, la perspective d'un vrai changement n'a été si proche. Mais cela dépend de vous. N'oubliez jamais et répétez autour de vous, si le peuple vote, le peuple gagne.
Acclamée par les siens, la candidate du RN s'adresse aussi aux autres.
À tous les Français, je pose la question. Et si on essayait autre chose ?
Avec un objectif pour les jours à venir, rassurer, prouver qu'aujourd'hui, elle est prête à accéder au pouvoir où elle s'entourera, dit-elle, d'un gouvernement d'union nationale. En attendant, c'est entourée de ses cadres, de ses parlementaires, tous venus à Perpignan, que la candidate savoure sur une Marseillaise a cappella ce parfum de victoire.
Eux veulent croire que les sondages sont pipés. Les partisans d'Éric Zemmour, réunis devant leur champion au Palais des Sports de Paris, donné en quatrième ou cinquième position, il a décliné ses mantras, fustigeant les racailles, l'écologie de Greta Thunberg, les éoliennes, le néo-féminisme, évoquant la mémoire de Jérémy Cohen, qui aurait pu être mon fils, dit-il au sujet de ce jeune garçon renversé par un tramway après avoir été molesté à Bobigny. Autre salle, autre ambiance, à Nantes, avec Yannick Jadot, et retour aux fondamentaux pour l'écologiste, à qui les sondages prêtent entre 5 et 6% d'intention de vote. Son dernier discours, résolument tourné vers l'enjeu climatique. Antoine Gignot.
Il parle de l'Ukraine, de l'accueil des réfugiés, de culture, de pouvoir d'achat. Mais c'est sur le réchauffement de la planète que Yannick Jadot insiste.
Nous avons un État condamné deux fois pour inaction climatique par la justice française. Nous avons trois ans pour renverser la table.
Et l'argumentaire fonctionne. Laurent est venu de Rennes assister au meeting.
C'est l'alerte rouge. 40 degrés de plus au pôle Nord que d'habitude. C'est pour ça que moi, je n'hésiterai pas à voter Jadot. J'étais mélenchoniste avant, donc voilà, je me fais insulter par mes anciens camarades. Ça m'est égal.
Un peu plus loin, quelques jeunes applaudissent, mais hésitent avec le programme de la France Insoumise. Et c'est à ces interrogations que Yannick Jadot tente de répondre.
C'est quoi le vote utile ? Quand on a gagné, après s'être tellement battu, contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Voter écologiste, c'est toujours un vote pour gagner les batailles.
Les batailles, car la présidentielle n'est qu'un premier pas, glisse un élu, Europe Écologie Les Verts. L'enjeu des législatives est tout aussi important.
Et combien d'électeurs aux urnes ce dimanche ? Les sondages prédisent une large abstention, surtout chez les jeunes et dans les catégories les moins favorisées. La question des banlieues n'a d'ailleurs quasiment pas été abordée. Élus associatifs des quartiers regrettent, Claire Chaudière, que les candidats s'y soient si peu intéressés dans cette campagne.
Il y a 5 ans, se souvient Laetitia Nonon, présidente de l'association Génération Avisée en Seine-Saint-Denis, des réunions, des stratégies, des rencontres avaient eu lieu avant et pendant la campagne présidentielle, à l'initiative de quasiment tous les partis politiques pour convaincre et parler aux électeurs des banlieues populaires. Aujourd'hui, selon elle, la situation est très différente.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet miroir qui s'est installé. D'un côté, les habitants des quartiers populaires, les plus pauvres, plus vulnérables, qui ne croient plus en la politique. Et d'un autre côté, certains politiciens se disent sans doute que de toute façon ils n'iront pas voter, donc c'est pas la peine non plus d'aller forcer et d'aller perdre du temps vers ces électeurs-là.
Enclavement, égalité, logement, on a là 5 à 10 millions d'habitants au total ignorés ou alors stigmatisés par une partie des discours, regrette Dominique Sopo pour SOS Racisme.
Il y a effectivement, pour la première fois depuis quand même extrêmement longtemps, une absence dans le débat public de ces thématiques. On est quand même face à une droitisation extrême de la vie politique française. Et la gauche n'a pas su ces dernières années construire un discours par rapport à cette offensive.
Quant à l'association d'élus Ville et Banlieue qui avait ouvertement interpellé les candidats avec des propositions pour plus d'équité territoriale, elle note que seuls 2 d'entre eux ont daigné répondre et se positionner.
Voilà, premier tour de la présidentielle J-2, émission spéciale dimanche soir sur France Inter à partir de 19h20.
Il est 8h07, la suite du journal sur France Inter. Florence Paracuelos.
C'est une petite ville de la région de Kiev. Borodienka, 13 000 habitants avant la guerre, la ville la plus détruite du secteur, selon la procureure générale d'Ukraine. Une ville pourtant sans installation militaire, où les corps de 26 personnes ont été retrouvés hier dans les décombres de leur immeuble. Une ville, dit la procureure, où les Russes ont utilisé des bombes à sous-munitions, où ils ont torturé, tué, passé à tabac, violé des civils, comme à Boutcha, et même pire, selon le président Volodymyr Zelensky.
Après ce qu'il s'est passé à Boutcha, cela devient évident. Des travaux ont commencé dans les décombres de Borodyanka et c'est bien pire là-bas. Encore plus de victimes de l'occupant russe, avec la même cruauté, les mêmes crimes odieux. Chaque tortionnaire sera retrouvé, tous ceux qui ont commis des viols ou des pillages seront identifiés, ils n'échapperont pas à leurs responsabilités.
Et après 6 semaines de guerre, combien de victimes dans la ville martyre de Mariupol? Sur place, les forces pro-russes elles-mêmes parlent de 5000 morts. Mariupol et ses hôpitaux bombardés, selon l'OMS, entre les centres de soins et les ambulances, une centaine d'attaques contre les services de santé ont été recensées depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. La guerre qui continue, les populations de l'Est appelé à fuir une offensive russe imminente. Pourtant, 500 000 Ukrainiens réfugiés en Pologne sont retournés dans leur pays ces derniers jours. La plupart dans l'Ouest, relativement épargnés, mais parfois aussi en direction de l'Est en péril. Ceux qui rentrent, Julie Pietri leur a tendu son micro dans cette gare polonaise à quelques kilomètres de la frontière.
Ils rentrent, malgré le danger. Cette femme, Maria, fait la queue avec son fils de 10 ans pour acheter 2 tickets de train.
Kharkiv
est sa destination.
Mon mari, ma mère, le reste de ma famille est resté à Kharkiv. Mon âme souffre quand je pense à eux. Je sais que c'est effrayant là-bas, mais il faut que je rentre à la maison. Je ne peux pas faire autrement.
Le long de la file d'attente, des bénévoles veillent, distribuent de l'eau, des couches, de quoi manger. Une jeune femme souffle des bulles de savon pour faire rire les enfants avant leur voyage.
C'est quelque chose que nous observons depuis 2 semaines.
Patricia oriente les réfugiés dans cette gare depuis 1 mois.
Des familles avec des bébés, des enfants, les gens rentrent. Ils rentrent, mais ça reste dangereux. C'est déchirant.
À l'extérieur de la gare, des chauffeurs de bus se relaient aussi pour conduire les réfugiés à la frontière.
C'est comme ça toute la journée.
Victoria monte à bord avec un sac en plastique si grand qu'elle peine à le porter.
Je viens de Tchougouïf, dans la région de Kharkiv. Il y a des opérations militaires là-bas en ce moment. Alors je rentre à Lviv. Je voulais tellement revenir parce que ma famille me manque. Je suis déprimée.
Pas très loin de là, des Ukrainiennes de l'Est posent leurs bagages. Elles viennent de fuir des zones bombardées.
Pour se défendre, l'Ukraine réclame plus que jamais des armes à l'OTAN. L'Europe a promis de débloquer 500 millions d'euros supplémentaires pour une aide militaire. Autres armes des guerres modernes, les cyberattaques dont les Russes sont passés maîtres ces dernières années. Mais comme sur le terrain, avec son armée, la Russie, Maxime Fayol, semble aussi être à la peine sur le terrain numérique.
La Russie a bien tenté de perturber les Ukrainiens depuis le 24 février avec une trentaine de campagnes de cyberattaques, mais leur effet a été plutôt limité. Exemple avec le piratage du satellite américain Viasat qui devait brouiller les communications de l'armée ukrainienne. Le résultat fut tout autre, raconte Stéphane Duguin du Cyber Peace Institute à Genève.
On s'est retrouvé avec 9000 personnes en France qui n'ont plus accès à Internet utilisant le même système. Plus de 40 000 personnes en Europe, dans d'autres pays, qui n'ont plus à avoir accès au système Internet. En Allemagne, une compagnie qui a perdu le contrôle sur des éoliennes.
La Russie est donc tenue en échec par une Ukraine qui a su s'organiser, d'abord grâce à l'aide du renseignement américain juste avant le début de la guerre, mais aussi grâce à une armée numérique de bénévoles venus du monde entier. Nazar, jeune programmeur ukrainien, en fait partie.
Pour l'instant, nous avons différents objectifs. On attaque notamment les sites russes et pro-russes. Par exemple, Kremlin.ru, le site du gouvernement russe. Ce site a été piraté et rendu inaccessible à plusieurs moments. En fait, il se passe ici tout type d'attaques cyber.
Une armée qui traque aussi les Russes sur les vidéos de guerre et qui cherche à alerter leurs familles sur leurs agissements via les réseaux sociaux.
Et l'autre guerre en Ukraine, ce sera demain dans Secret d'Info à 13h20 sur France Inter. Contre la Russie, l'Europe enfin a bien validé une nouvelle salve de sanctions, embargo sur le charbon, fermeture des ports aux navires russes, bannissement des transporteurs routiers russes et biélorusses de l'Union. En Israël, c'est la quatrième attaque en deux semaines dans une rue très animée du centre ville de Tel Aviv. Hier soir, un homme a tiré sur les clients d'un bar, faisant 2 morts et au moins 16 blessés. L'assaillant a été tué quelques heures plus tard.
France Inter, il est 8h12. Son rôle a été fondamental dans les heures qui ont suivi les attaques du 13 novembre 2015.
Une jeune femme que la cour entendra aujourd'hui, c'est elle qui a permis la localisation d'Abdelhamid Abaoud, membre du commando des terrasses et coordinateur des attaques. Quelques mois plus tard, Sophie Parmentier avait pu recueillir son témoignage.
Nous l'appellerons Sonia, c'est le prénom qu'elle s'était choisi pour raconter son incroyable histoire. En novembre 2015, Sonia héberge chez elle Asna Haït Boulassen, une jeune fille paumée qui est la cousine d'Abdelhamid Abaoud. Sonia ne connaît pas ce djihadiste belge. Le soir du 13 novembre, Sonia est bouleversée par les attentats. 2 jours plus tard, Asna reçoit un étrange coup de fil. Au téléphone, on lui dit de se rendre à une adresse. Pour une surprise, Sonia décide de l'accompagner et devant un buisson, au pied d'une autoroute, Sonia voit surgir un homme aux baskets orange. C'est Abaoud. Sonia nous avait décrit cette rencontre sidérante et par mesure de sécurité, elle nous avait demandé que l'on déforme sa voix.
De toute façon, dès qu'il m'a dit le 13 novembre, c'est moi, les terrasses, c'est moi, j'ai dit là, on appelle la police. J'ai un monstre sanguinaire en face de moi et je me rends compte à un moment donné qu'il est heureux. Il est heureux de ce qu'il a fait. Et il est heureux de ce qu'il compte faire. C'était pas possible pour moi d'être complice. Laisser agir, ça me rendait coupable.
Abaoud sera neutralisé avec un autre terroriste du 13 novembre grâce à la dénonciation de Sonia. Depuis, Sonia a dû changer de vie et d'identité pour échapper aux représailles de l'État islamique.
Sophie Parmentier, elle avait été rouée de coups puis jetée dans la Seine par 2 camarades de collège à Argenteuil. Alisha, 14 ans, n'avait eu aucune chance de sortir vivante de ce guet-apens fait divers glaçant il y a un an, pour lequel les 2 adolescents ont été condamnés à 10 ans de prison hier. Enfin, quand la guerre en Ukraine met fin à 28 ans de silence d'un groupe absolument mythique, les Pink Floyd, de retour en studio pour enregistrer un titre très spécial, guitare, basse, batterie, clavier, sous la voix d'un chanteur ukrainien blessé au combat. Voilà la voix du chanteur ukrainien Andriy Klivnyuk du groupe Boombox et la guitare de David Gilmour, reconnaissable entre 1000. David Gilmour qui a une belle fille et des petits-enfants ukrainiens. Il reversera les fonds récoltés avec cette chanson à des œuvres humanitaires. Il veut aussi, avec ce morceau, remonter le moral des troupes ukrainiennes.
Merci Florence Paracuelos. La météo tout de suite, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Stéphanie, journée très agitée.
Et au passage de la tempête Diego, le temps est perturbé avec du vent très fort, des pluies modérées de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes et au Jura. Le vent souffle déjà par rafale de 80 km à 100 km par heure sur de nombreux départements, dont les 5 placés en vigilance orange. La Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Les rafales pourront atteindre les 100-110 km par heure en soirée dans les plaines d'Auvergne. Sur les Alpes, la perturbation a déposé une petite couche de neige fraîche à partir de 1600-1700 mètres, ce qui place la Savoie en vigilance orange pour risque d'avalanche. Et il neigeote au nord de la Seine. Et en se dirigeant vers l'est, l'activité de cette perturbation se renforce, n'épargnant qu'à peine la frange sud, allant de la pointe basque à la pointe varoise, où le soleil est présent mais caché par un léger voile nuageux ce matin, plus épais cet après-midi, et il fera plus frais au nord de la Seine avec au mieux 6 à 9 degrés.
Merci Stéphanie. France Inter, 8h16.